FM. Il est minuit. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, je voulais faire à votre cérumen ce matin, mais ça marche pas parce que c'est un C à cérumen. Je reçois le soldat du cérumen inconnu, le docteur Ali Abbas. Bonjour Doc.
Bonjour Philippe.
C'est vous qui vous surnommez comme ça, hein, le soldat du cérumen inconnu.
Oui.
Hein,
oui.
Bon, on verra ce que c'est que le cérumen. Vous êtes chirurgien spécialiste en otorhino-laryngologie. Ça vaut des points ça au Scrabble.
Ouais. Otorhino-laryngologie, ORL.
ORL, voilà.
Oreille et gorge.
Voilà, chirurgie cervico-faciale. Et vous êtes spécialisé dans la prise en charge médicale et chirurgicale des pathologies ORL et cervico-faciale de l'adulte et de l'enfant, même si vous ne prenez plus les petits-enfants maintenant. Hein.
Alors, je n'opère plus les enfants, mais je les vois en consultation, oui, ouais. Par contre.
Pourquoi ?
La pathologie chirurgicale... pédiatrique est moins intéressante que la pathologie adulte.
Voilà, et vous avez une spécialité, c'est la chirurgie du nez, rhinoplastie réparatrice.
Aussi, ouais. Ouais. Et chirurgie endonasale. Donc tout ce qui est rugbyman, footballeur, traumatisme, on leur répare leur nez.
Et d'accord.
C'est pris en charge par la sécurité sociale.
Ou, faut pas le dire ça.
Ou ouais. Pour mieux respirer, mais il faut avoir le nez cassé. Donc les gens qui viennent, qui n'ont pas de nez cassé... Qui
la bosse du grand-père, ça marche pas.
Ça marche pas du tout.
Non, c'est pas de l'esthétique, en fait.
Voilà. Non, mais en plus, il y a une demande d'entente préalable. Enfin, c'est plus compliqué que ça.
Bien, vous êtes très, très, très présent sur Twitter.
Alors, les enfants me disent...
Chez vous, Twitter, ça correspond à quoi ? Parce que Twitter, vous me faites penser à Elon Musk. Hein.
Ah, non, quand même pas à ce point-là. Alors, Twitter, initialement, c'était essentiellement pour partager et pour un public essentiellement de médecins, pour faire un peu de pédagogie, parce que ça s'y prête, c'est rapide, c'est des petits messages avec un peu d'iconographie. Et puis après, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi, notamment oui. À cause du Covid.
Oui, vous faites de moins en moins de médecine hein, sur Twitter aujourd'hui.
Alors, toujours si, quand même, mais on parle de dates, on parle de vie et de...
Ouais, vous partagez votre passion de la Bretagne, pour le reste, vous faites de la politique.
Alors, la montagne.
Et de la Bretagne aussi.
Et de la Bretagne un peu, mais on doit toujours faire ce GR là, qu'on n'a pas encore fait.
Bien, voilà. Et vous avez couru récemment le semi-marathon de Paris. Donc félicitations.
Merci.
Pour votre âge, vous vous en sortez bien.
Merci.
Bien, comme on ne se connaît pas, je ne vais pas être trop méchant avec vous, mais ça fait un an que vous attend. Comme je vous attends depuis un an, donc vous imaginez mon impatience. On va parler des pathologies ORL du Ramadan, sujet que vous m'avez proposé, mais est-ce qu'il y a des pathologies ORL qui sont spécifiques à ce mois ou des choses qui pourraient s'y apparenter ?
Alors, c'est plutôt s'y apparenter, c'est-à-dire le jeûne. Et le jeûne va provoquer une déshydratation, notamment des muqueuses, c'est-à-dire des peaux à l'intérieur du nez et de la bouche, et va entraîner quelques inconforts. C'est pas vraiment, on n'est pas dans la pathologie. Voilà, donc c'est essentiellement lié au nez, le nez qui est sec, devant, mais du coup, ça va créer des perturbations. Il va y avoir ce qu'on appelle un jetage postérieur, c'est-à-dire le nez qui coule en arrière. C'est un peu les gens que vous connaissez qui sont toujours en train de faire à se racler la gorge en milieu de journée de jeûne, voire en fin de journée. Et donc,
Est-ce que ça rompt le jeûne, ça? Parce qu'il faudrait demander à l'imam, ça.
Alors, paraît-il, oui, il faudrait pas avaler, mais non, ça ne rompt pas le jeûne, mais ça touche beaucoup de gens, essentiellement des gens qui ont les mêmes soucis en Ramadan avec la climatisation ou le chauffage électrique. Ça va leur perturber leur nez. Et ce sont les mêmes personnes qu'on va retrouver au moment du jeûne, sur un jeûne un jeûne un peu plus long, c'est-à-dire un jeûne de printemps ou d'été, pas un jeûne d'hiver. De printemps ou d'hiver. Et donc, du coup, ils vont se retrouver avec beaucoup de pathologies du nez, le nez sec, etc.
Vous dites que le jeûne, par exemple, ça renforce votre odorat. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous écoutent aujourd'hui, qui sont en train de jeûner, qui disent « c'est bizarre, j'ai mon odorat, mon sens de l'odorat qui est plus développé quand je jeûne ».
Alors, paradoxalement, on a le fait de ne pas avoir de phéromones, c'est-à-dire d'éléments qui vont exciter l'odorat, parce qu'on n'est pas là à manger ou à sniffer ou à... Et donc du coup, on se retrouve pour certains à avoir, comme moi, un odorat plus développé. On arrive à sentir des choses qu'on ne sentait pas, notamment une des odeurs corporelles chez d'autres. Moi, malgré mon masque, j'arrive à sentir un peu mieux des odeurs corporelles en consultation que j'ai pas en hors période de Ramadan. Et donc ça, il n'y a pas d'explication à part le fait de ne pas avoir trop d'excitation
De diversion,
l'odorat.
En fait, de diversion, parce peut-être que les phéromones, c'est peut-être des diversions finalement, non?
Non, c'est vraiment les bonnes odeurs, c'est pas des parosmies un petit peu comme certains ont eu après le Covid.
Alors les parosmies, pour tout le monde.
Donc c'est un trouble de l'odorat qui n'est pas lié qu'au Covid, mais d'autres virus, où en fait des gens vont sentir d'autres choses, c'est-à-dire vont sentir une pomme alors qu'ils ont une banane devant eux. Voilà. Et plus généralement des mauvaises odeurs. Donc ça, c'est un gros problème pour les rhinites, pour les troubles de l'odorat. Voilà. Mmh. Et donc ça, c'est pour l'odorat. Et par contre, donc ça, c'est pas pour tout le monde, les troubles de l'odorat, c'est-à-dire l'odorat surdéveloppé par le jeûne du Ramadan. Par contre, il y a quand même beaucoup plus de troubles liés donc à la sécheresse buccale liée au Ramadan, parce que on peut pas boire, on peut pas manger, on peut pas s'hydrater, sauf les 5 ablutions par jour, quoi, parce qu'on ramène un petit peu d'eau dans la bouche. Mais on a, au fur et à mesure que le Ramadan progresse dans le mois, on a moins en moins de goût. Et en fait, ça, c'est lié aux papilles gustatives. Donc, c'est des petites structures qu'il y a sur les langues qui sont pareilles parce qu'ils sont pas excités, etc. Et en fait, on remarque que plus les semaines de Ramadan avancent, plus on va, pour avoir le même...
Même goût. Ouais.
Le même goût, le même plaisir gustatif, parce que ça reste un plaisir. Hein. Le Ramadan, on se prive pour mieux retrouver un plaisir le soir et dire merci Dieu, quoi, pour se dire merci Dieu de pouvoir manger. Et donc en fait, plus on avance dans le Ramadan, moins on a de plaisir, moins on a de goût, et plus on va manger salé et sucré. Et au fur et à mesure. Et attention
épicé,
à ce.
Épicé aussi, non?
Épicé, ouais. Pour certains, ouais. Et alors attention aux gens qui mangent de plus en plus salé et vraiment de plus en plus sucré. Ou à la fin, c'est plus, enfin, ça ressemble plus à un jeûne, quoi. C'est la fête, quoi.
C'est la même chose qu'on a quand on est dans l'avion, d'ailleurs.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que dans l'avion, quand vous êtes dans l'avion, vous ressentez moins le salé et l'épicé.
Alors,
est-ce que c'est parce que c'est sec?
C'est un peu sec, mais c'est aussi parce que c'est pas bon dans l'avion.
Ah bon? D'accord. Voilà. J'avais pas vu comme ça.
Ouais. Mais non, là, c'est vraiment une déshydratation complète, etc., qui se produit avec un changement. Voilà. C'est des petits troubles que tout le monde ressent. C'est pas vraiment de la pathologie. Tout ça disparaît. Par exemple, j'ai des patients qui viennent durant le mois de Ramadan, qui me disent j'ai le nez qui coule en arrière, qui se racle la gorge, donc on s'appelle l'image. Et donc moi, volontairement, je vais pas mettre de traitement. On va attendre la fin du Ramadan, quelques semaines. Puis
c'est pas une rhinite allergique ou...
C'est pas une rhinite ou autre. C'est une rhinite vasomotrice, mais qui peut être liée à d'autres facteurs. Et on va attendre plusieurs semaines la fin du Ramadan pour voir si c'est... voilà. Et il n'y a rien qui va nécessiter un traitement.
Et vous, quelle approche avez-vous des fameux maux de tête déjà qui se manifestent déjà les premiers jours, on va dire, la première semaine?
Ouais. Alors ça, donc pareil, on a des patients qui viennent en consultation pour me dire j'ai mal au sinus, donc j'ai une sinusite. Ils disent j'ai une sinusite. Et en fait, on les examine et en fait, c'est pas une sinusite, c'est vraiment des douleurs en étau autour, au-dessus des yeux, voire une barre frontale, mais ça sert vraiment en étau. Et ça s'appelle une céphalée, donc mal de tête, de tension, dite céphalée de stress. Et ça, chez beaucoup de gens qui jeûnent, c'est lié effectivement à la déshydratation. Ils ne boivent pas assez d'eau le soir, ni le matin. Donc ça, c'est
ça,
important.
Ça, c'est vraiment lié à la déshydratation.
À la déshydratation.
Ouais.
Et pour certains aussi, c'est lié à une carence de certains éléments qu'ils avaient l'habitude, à savoir pour certains la cigarette, d'autres le café. Voilà.
Donc c'est un symptôme de manque?
C'est un petit symptôme de manque. Et donc ça, en fait, il faut juste boire de l'eau. Au maximum, le paracétamol, par exemple, Doliprane ne marche pas dessus, donc il faut prendre des anti-inflammatoires, un ibuprofène le soir.
Comme pour la migraine.
comme pour la migraine. C'est un équivalent migraineux, mais avec modération, parce que l'anti-inflammatoire, vous avez déjà perturbé votre ventre, ça peut faire mal à l'estomac, donc voilà. Donc là, voilà, c'est quelques jours. Parfois, on dit même d'attendre et ça va passer. Plus on avance dans le truc, mais plus on avance, plus on s'hydrate aussi inconsciemment. Enfin, involontairement, on le fait aussi. Alors qu'au début, on ne fait pas attention parce qu'on ne boit pas d'eau, on ne va pas se forcer à boire de l'eau. Et petit à petit,
surtout ceux qui ont des pannes de réveil et qui ne se lèvent pas, en fait.
Alors, ceux qui ne se lèvent pas, c'est encore...
Qui ne se lèvent pas, oui, ouais, pour la pause savour.
Ouais. Ouais. Oui, aussi. Mais il y a carrément un manque d'eau, quoi. Manque d'hydratation.
Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en termes d'hydratation?
En fait, je conseille la même quantité d'eau qu'ont les gens. Enfin, faut pas chercher dans les chiffres tout ça. Si vous avez l'habitude de boire 2 litres d'eau, il faut continuer de boire 2 litres d'eau. Le seul problème, c'est qu'on a un temps limité pour boire ces 2 litres d'eau. Alors, autant vous dire, l'été, c'est juste impossible. Entre 22h et 2h, boire 2 litres d'eau, on se retrouve ballonné. Et pourtant, on en arrive à le faire parce qu'on a tellement mal à la tête ou on est vraiment déshydraté parce qu'il fait chaud, etc. Mais il faut boire la même quantité d'eau et il faut pas boire des grosses quantités. Faut boire un petit peu, un peu comme quand on fait du sport ou de la randonnée. Un petit gorgé, voilà, c'est tout.
Le docteur Ali Abbas est notre invité ce matin. On va s'intéresser à vos oreilles dans un instant.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, je le reçois, le docteur Ali Abbas, qui est notre invité ORL, comme on dit aujourd'hui, fan de François Hollande. Il vous manque, François Hollande, hein?
Pourquoi François Hollande?
Je sais pas, j'ai vu sur Twitter, on critiquait François Hollande, mais au moins avec lui, il pleuvait. Oui. Et ça m'a fait rire. Ah. Parce qu'on a beaucoup reproché à François Hollande... la pluie, et maintenant on la demanderait presque. Bien, on va parler de nos oreilles aujourd'hui. Comment nos oreilles... attendez, il faut d'abord dire que vous n'avez pas de...
Alors donc, je m'appelle Ali Abbas, je suis ORL, j'exerce à Paris, et je n'ai aucun conflit d'intérêt, ni avec les laboratoires pharmaceutiques, ni même avec cette chaîne BFM.
Alors non. Alors, pas BFM, pour des tas de raisons. J'aime beaucoup BFM, mais je préfère Beurre FM.
Oui, c'est Beurre FM.
J'aurais beaucoup plus de mal à travailler sur Beurre FM.
Donc,
sur
aucun, BFM, d'ailleurs. Aucun conflit d'intérêt avec Beurre FM.
Ça fait un an que je vous invite. C'est pour vous dire que j'ai même ramé pour que vous soyez là aujourd'hui.
Voilà, c'est dit.
On va parler de nos oreilles. Comment nos oreilles se portent-elles aujourd'hui avec les écouteurs et les casques? Il y a une question qu'on m'a posée, c'est: est-ce que les AirPods sont dangereux pour la santé et est-ce qu'ils sont générateurs d'infections?
Alors, statistiquement, non. Donc, les écouteurs, que ce soit les AirPods ou les filaires, ou même les casques supra-auriculaires, c'est-à-dire qu'ils prennent toute l'oreille, n'entraînent pas, quand ils sont construits selon des normes d'ailleurs européennes, mais aussi internationales, contre la surdité, ou le traumatisme sonore, n'entraînent pas de problèmes, qu'ils soient utilisés quelques minutes ou quelques heures. Voilà. Après, les problèmes sont pas des problèmes acoustiques, c'est-à-dire d'audition, mais sont essentiellement des problèmes liés à la peau du conduit auditif, et donc qui a pour certaines personnes, pas toutes, des problèmes de type eczéma ou surproduction de cérumen ou infection aussi parfois. Quoi.
Voilà. Il faut une hygiène particulière de ces types d'écouteurs ou pas? Parce qu'il y en a, il y a des maniaques un peu.
Alors, pas vraiment. Par contre, les seuls patients que je vois en consultation qui ont des otites externes, donc des infections de l'oreille de l'extérieur, dont on va incriminer après moult recherches les écouteurs, AirPods ou peu importe la marque ou le type, ce sont des gens qui s'échangent ces écouteurs intra-auriculaires. Donc le seul conseil que je vous donne...
C'est contagieux ?
Non, mais si vous avez quelqu'un à qui vous avez prêté qui a des bactéries, les bactéries que vous avez dans votre oreille ne sont pas les mêmes que d'autres ont. Pour certains, ça va produire des infections, pour d'autres, non. Donc quand vous échangez des écouteurs, il faut les nettoyer, quoi. Avec juste des lingettes.
Vrai,
quoi.
Pour les casques
Alors les casques, un peu moins, parce que ça rentre pas dans l'oreille, voilà.
On n'arrive pas, donc on n'augmente pas le nombre de pathologies liées aux oreilles avec ces types d'écouteurs qui sont quand même très dans l'oreille.
Alors, non. Par contre, ce qui va poser problème, par exemple, ça va être plus des boules caisses. Donc, on va mettre toute une nuit. Donc, c'est la durée qui compte. Or, là, les AirPods, bon, à moins de le mettre toute la journée, etc., il y a eu des soucis durant le Covid avec le confinement et l'utilisation de ces écouteurs de façon un peu plus industrielle pour du télétravail. Et ça a créé plutôt, voilà, des lésions cutanées de peau. C'est pas vraiment des problèmes d'audition, quoi. C'est pas considéré d'ailleurs comme une maladie professionnelle. Donc, j'ai des patients qui télétravaillent, donc qui font du télémarketing avec des casques, etc., qui veulent que ce soit reconnu. Et en fait, c'est pas reconnu en France comme maladie professionnelle, ni même d'ailleurs en Europe.
Toujours pas.
La surutilisation, voilà. Tant que c'est du matériel qui est homologué en France selon des normes, etc. Donc tout a été voilà.
Mais alors pourquoi finalement ces écouteurs qui sont quand même très dans l'oreille ne sont pas générateurs de pathologies et aujourd'hui on veut interdire les cotons-tiges?
Alors, il y a une différence entre le AirPod, là, l'écouteur intra, parce que vous décidez de prendre cette marque-là.
Non, je sais pas, c'est parce qu'on m'a posé la question.
Ouais, rentre à peu près dans un tiers, voire maximum la moitié de la longueur du conduit auditif. Alors que les cotons-tiges, en fait, vous allez les enfoncer, et pour beaucoup, vous allez les enfoncer plus que la moitié de ce conduit auditif, et donc vous allez repousser tout le cérumen, c'est-à-dire la cire, les saletés, vers l'intérieur, et ça va l'impacter contre le tympan, et donc là, le bouchon de cérumen va se constituer.
Alors le cérumen, qu'est-ce que c'est ?
Alors le cérumen, en fait, c'est de la cire que produit la peau elle-même du conduit auditif externe, et en fait, si vous voulez, l'oreille, c'est un puits. Or, il y a des saletés qui vont rentrer dedans, et je vais utiliser un schéma, la peau qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu comme un tapis roulant. Et donc qui va battre un petit peu, en fait c'est lié à des cils qui sont visibles au microscope, et qui vont sortir en fait ces saletés du puits vers l'extérieur. Et pour huiler la machine, si vous voulez, quoi de mieux que de la cire? Donc c'est la peau elle-même qui produisait la cire.
C'est ce qu'on appelait de la cire, enfin on appelait ça des bouchons de cire avant.
Voilà, c'est ça, des bouchons de cire ou de cérumen. Ouais. Et donc le terme exact c'est cérumen, cire, parce qu'on utilise moins, parce qu'il peut y avoir aussi des boules qui restent à base de cire, etc. Voilà. Et donc les gens qui vont faire des bouchons de cire, donc avoir l'oreille totalement bouchée, sont soit des gens qui surproduisent du cérumen, ça existe, soit plus généralement leur cérumen colle, ils collent plus que d'autres. On voit ça chez les populations asiatiques. Et troisième possibilité, en fait ils ont des conduits anatomiquement plus étroits. Et le quatrième facteur se rajoute, c'est quand on introduit quelque chose dans l'oreille. Donc les cotons-tiges ou autres qui vont venir.
Alors pourquoi on a mis pendant des années, on a autorisé les cotons-tiges, et puis subitement on s'est rendu compte que les cotons-tiges poussaient le cérumen.
C'est ce que je dis aux patients. Vous allez retourner à la maison après la consultation et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a écrit sur la boîte de cotons-tiges. Et il y a écrit normalement, en France mais aussi en Europe, ne pas introduire dans l'oreille.
Okay, vous en faites quoi alors? Vous les mettez
et donc,
dans les narines?
En fait, pourquoi ce coton-tige? En fait, ça a été créé dans les années 50 à visée cosmétique, donc pour le visage, etc. Et petit à petit, les gens ont utilisé dans l'oreille. Et puis, pour certains aussi, c'est une zone un petit peu. Ça donne du plaisir un petit peu aussi. Donc, c'est des gens maniaques du coton-tige, parce qu'en se mettant le coton-tige dans l'oreille, ça leur procure un peu de plaisir. Voilà.
C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que le coton-tige n'a pas été créé pour se nettoyer les oreilles?
Non.
D'accord.
Non. Le corps humain étant bien fait, il n'a pas besoin du coton-tige.
C'est bien qu'on nous le dise maintenant.
Alors, on en parle maintenant parce qu'en fait, il y a eu la loi européenne là, contre le plastique. Et donc, du coup, on a commencé à dire, c'était avant le Covid d'ailleurs, mais ça a été mis qu'il n'y aurait plus de coton-tige. En fait, il y a toujours des coton-tiges, mais en carton, en fait. Un petit peu. Normalement, il devrait plus y avoir.
C'est mondial, on en voit partout d'ailleurs, des cotons-tiges.
Et ça va, alors, on parle de cotons-tiges ici parce qu'on est en France ou en Europe. C'est valable aussi pour les bougies qu'utilisent les Indiens. Se mettent dans les oreilles, qui est fait dans la rue un petit peu, que je déconseille. Il y a eu des cas de brûlure. Il y a aussi dans
pour les bouchons, hein, c'est ça.
Oui, oui,
c'est
pour nettoyer les oreilles.
C'est ouais. expliqué ça.
Ouais, c'est ouais. pour ouais. nettoyer les oreilles, donc ils utilisent des bougies. Et il y a aussi là récemment des bâtonnets japonais, sorte de donc ils appellent ça les cotons-tiges japonais. Et c'est une espèce de petit crochet qui permet de d'enlever un peu la cire.
Bon, alors les bouchons, on les enlève ou on les enlève pas?
Alors le quand il y a un bouchon, normalement, il y a une baisse d'audition qui est de l'ordre de 30-40%. Donc, c'est gênant. Et en plus de ça, ce n'est pas juste une surdité, c'est ce qu'on appelle une plénitude de l'oreille. Donc, on a l'oreille bouchée, un peu comme dans l'avion. Et ça, c'est encore plus désagréable que d'avoir une surdité. Voilà. Donc, le bouchon, quand quelqu'un a un bouchon, on l'enlève parce que c'est gênant. Il n'entend pas. Et donc, preuvier, en consultation, quand on enlève un bouchon, tout de suite, c'est une satisfaction importante. C'est d'ailleurs les patients qui sont le plus satisfaits immédiatement.
Bien.
Voilà.
Oui, pour la rhino, faut attendre un petit peu pour enlever le plâtre. Voilà. Et comment est-ce que l'ORL débouche, enlève le bouchon de cérumen?
Alors, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus rassurant pour l'intégrité de l'oreille de son tympan, c'est l'eau. C'est l'irrigation. Et on a donc des irrigateurs. On va mettre de l'eau, c'est comme une douchette, si vous voulez, dans l'oreille. Il faut que l'eau soit à 37 degrés. En dessous ou au-dessus, ça va créer des vertiges. C'est ce qu'on utilise en test diagnostique. Et donc, à 37 degrés, on va mettre de l'eau dans ce puits, un petit peu. Mais sauf que ce puits, il n'est pas à la verticale et à l'horizontale. Et petit à petit, le bouchon part. Il y a un moyen, c'est un aspirateur pour aspirer les saletés. Et enfin, ce qu'on faisait avant, les micro-instruments froids. Donc, des micro-pinces, des crochets. Mais là, il faut être très précis. À déconseiller, si vous n'êtes pas... ORL.
Ma mère m'a toujours dit ne mets pas d'eau dans tes oreilles.
Et donc ça, c'est la deuxième erreur après les cotons-tiges, les oreilles, le nez, la bouche, tous les orifices, même du bas, se lavent. Les oreilles sont faites pour être lavées. Le nez est
avec
fait
de l'eau.
Pour...
Donc c'est
avec
ça,
de l'eau.
C'est ça
avec de l'eau.
Dire,
ouais, ouais, c'est avec de l'eau. Donc moi, ce que je conseille, les gens qui font pas de bouchons de cérumen, on va les laisser tranquilles, on va rien leur conseiller. Mais les patients qui viennent pour bouchons, et donc du coup, c'est des bouchons de cire qui vont récidiver, pour certains tous les 6 mois, d'autres un peu plus. Donc pour cela, ceux qui récidivent, je leur conseille, 1, plus de coton-tige, ça vous l'avez compris, et 2, à chaque fois qu'ils se lavent les oreilles, il faut qu'ils se rincent les oreilles avec la douchette de l'eau tiède, 10 secondes, et c'est la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, soit vous le faites régulièrement, tous les jours, ou chez les femmes qui se lavent les cheveux tous les 2-3 jours, tous les 2-3 jours, mais pas une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Parce que là, la cire va se constituer, donc vous allez mettre de l'eau, et là, ça va faire l'effet inverse, ça va boucher l'oreille.
D'accord. Donc on peut mettre de l'eau dans ses oreilles. Les sprays, vous conseillez ou pas?
Non, je trouve que c'est complètement cache-misère, ça sert strictement à rien. Donc tous les sprays, les trucs à base de sérolytique, je vais pas citer de nom, ça sert strictement à rien.
Les sérums, bon bref.
Et dans les pays anglo-saxons, d'ailleurs, on conseille de mettre de l'huile d'olive. Donc, alors,
je crois que c'est pour les otites, ça, l'huile-là.
Non, c'est normalement. Alors, faut pas mettre d'huile d'olive. Hein, voilà, si vous voulez mettre de l'huile d'olive, quand vous avez un bouchon, vous mettez de l'huile d'olive. Mais il y a juste une seule chose, et ça, j'entends beaucoup, notamment dans les pays du Maghreb, l'huile d'olive, ne la chauffez pas. Ne la chauffez pas.
C'est ce que j'entendais pour l'otite, moi, c'est ce que je
me dis. Ne la chauffez pas, ça crée par accident, parfois, quand vous l'avez trop chauffé, une perforation du tympan, et là, c'est la catastrophe. Et ça, j'ai eu plein de cas au Maghreb, des patients qui venaient du Maghreb ou de Turquie. Faire ça, il faut pas faire ça. Il faut pas chauffer l'huile d'olive ou l'eau quoi que ce soit. Il faut pas mettre ça. Ça brûle le tympan, il est super fin. C'est un papier cigarette. Voilà. Et ça crée des catastrophes, tout ça pour voilà. Mais
sur votre Twitter, il y a de très jolies photos de tympans perforés d'ailleurs. Oui. Ça fait peur, hein?
C'est pas le pire.
C'est pas le pire.
AVS revient dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, le docteur Ali Abbas qui est notre invité ORL. Aujourd'hui, peut-être que vous nous écoutez à la radio, il y a encore des objets formidables en 2023. Mais il y a d'autres objets qu'utilise par exemple un ORL. Quel est l'appareil que vous utilisez, Doc, pour faire des examens de l'oreille?
Alors, moi, j'utilise essentiellement un endoscope. Donc, c'est une caméra, en fait, qui me permet de mieux voir l'intérieur de l'oreille.
On voit les bouchons?
On voit tout. On voit tout, on voit bien. Ça permet d'éviter d'utiliser un microscope. Il y avait des microscopes de consultation qui étaient un gros appareil qui coûtait 4 fois plus cher qu'un endoscope. Et là, avec l'endoscope, on peut tout voir. Il y a différentes tailles. On peut voir même un bébé de 1 an, un jour de vie, je peux voir un tympan. Voilà. Ce qui est hyper difficile, sinon. Autre mesure.
Pourquoi est-ce qu'on utilise l'expression, en parlant de tympan, percer les tympans ?
Alors, percer les tympans, c'était ce qu'on faisait il y a un peu plus de 30-40 ans, à savoir les gens venaient pour une otite. Et donc, l'otite, c'est quoi ? C'est du pus qui est derrière le tympan. Donc, si vous voulez, c'est comme un abcès, c'est une poche de pus. Et donc, l'abcès, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le crever, il faut le percer. Donc, on perçait un petit peu le tympan. Ça diminuait la pression sur le tympan. Le tympan, en fait, il y a plusieurs filets nerveux dessus. C'est super douloureux. Donc, pour un enfant, c'est super douloureux, une otite. Et donc, ce qu'on faisait il y a 40 ans, on perçait les tympans, et du coup, le pus s'écoulait, la pression diminuait, et après, on mettait des antibiotiques et ça passait. Or, cette attitude qui était dans les années un peu avant 80, a entraîné, en fait, ces gens-là, qui étaient enfants, quand ils sont devenus adultes, donc 40 ans après, des surdités précoces. Donc, on ne le fait plus. Il ne faut plus le faire. Donc, on ne perce pas le tympan comme ça. Il faut qu'il y ait une indication. Et moi, sur... 6000 consultations, donc on va dire il y a un tiers d'oreilles, 2000, je vais faire une ou deux parasynthèses. Parasynthèse, c'est le terme technique pour percer le tympan.
Le tympan.
Ouais, c'est exceptionnel.
Dans quelle indication ?
C'est essentiellement pour des gens qui ont de l'eau et pas du pus, qui est coincé depuis plusieurs semaines pour essayer de pallier à ça, pour qu'ils entendent un peu mieux. Mmh. Ça fait une hyperpression. Donc c'est très rare, en fait, de percer le tympan. Et il faut moins le faire. Alors je le vois encore faire dans certains pays d'Afrique. C'est pas une attitude correcte. C'est d'autant que l'amoxicilline, l'antibiotique de référence pour les otites, est assez présent partout. Quoi.
Voilà. Enfin, cette année.
Cette année moins.
Cette année, il y a eu une pénurie. Comment est-ce que vous avez géré
cette
pénurie ?
Alors moi, je vois pas trop les otites aiguës. C'est plutôt les médecins généralistes qui le voient. Et en fait, on a essayé de gérer. Moi, j'ai essayé de faire un peu plus de formation pour pas qu'ils prescrivent cet antibiotique dans une mauvaise indication, à savoir que ce n'est pas une otite, et on a un peu diminué les jours de prise, mais ça a été un gros problème, et ça va l'être encore.
Il y avait vraiment une tension,
En fait, la Chine a décidé de garder ses médicaments pour elle a raison, et donc nous, on est idiots, on n'a pas produit de médicaments, alors qu'on dit qu'il faut qu'on en fasse, mais on ne fait pas, parce que c'est pas rentable.
Alors qu'on a des gros groupes pharmaceutiques. Ouais. Pourquoi est-ce qu'en termes d'otite, on a une oreille préférentielle et c'est pas les deux oreilles en même temps ?
Alors, quand on a une otite, alors, il n'y a pas de réponse scientifique à ça. On pensait que quand vous dormez, par exemple, sur le côté droit, la majorité des gens dorment sur le côté droit et donc, du coup, ils font une otite droite. Bon, mais ça n'a pas de valeur scientifique. Il y a une différence entre otite moyenne aiguë, qui est l'otite des enfants jusqu'à 3-4 ans, pour lequel le traitement est un antibiotique par la bouche. A contrario des otites chez l'adulte, qui sont dans 99% des cas des otites externes, liées à des baignades, liées à du coton-tige, liées à se gratter le doigt, liées peut-être parfois à des écouteurs. Et donc là, le traitement est forcément des antibiotiques en goutte locale et pas des antibiotiques par la bouche. Donc adulte, goutte locale, enfant, par la bouche.
À quel moment on sait que elle s'est chronicisée, l'otite ?
Alors, elle s'est chronicisée, en fait, elle se chronicise pas sur le mode douleur, donc c'est douleur au début, et en fait, l'oreille est bouchée après.
Parce qu'on a l'impression qu'elles font de moins en moins mal avec le temps.
Bon. Alors, elles font moins mal parce qu'il y a moins de pus et il y a moins de pression sur le tympan. Par contre, se met à la place de l'eau, des sécrétions, un peu, les Anglais appellent ça de la glu, et donc les gens ont la tête sous l'eau, quoi. Mais ça fait pas mal, par contre.
De la glu.
Oui, glu ear. C'est l'otite séreuse, c'est de l'eau derrière le tympan, c'est la chronicité de l'otite moyenne aiguë.
D'où peut-être cette sensation chez certains d'avoir de l'eau toujours dans les oreilles, c'est ça ?
Oui, alors certains, voilà. Et ça, c'est lié à, c'est juste de la mécanique des fluides. L'oreille est connectée au nez par un canal qu'on appelle la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache, c'est quand vous pincez le nez, vous mettez de l'air pour décompresser, quand vous voyez que c'est bouché. Et donc, cette trompe d'Eustache, c'est un peu un gros problème en ORL, et elle se bouche chez certains patients, et donc ils ont cette sensation d'avoir de l'eau derrière le tympan, que l'oreille craque, qu'ils ont une douleur qui est sous l'oreille, des problèmes pressionnels, c'est-à-dire même de descendre plusieurs étages, ça se bouche. Voilà.
Est-ce que ça rompt le jeûne? Il faut redemander aussi non. à l'imam Abdelali.
Non, ça ne rompt pas le jeûne.
C'est des questions. En tout cas, c'est des questions qu'on a souvent le soir. À quel moment l'otite ça devient une urgence en fait?
Alors, l'otite devient une urgence. La douleur est une sorte d'urgence. Donc, voir un enfant qui est en pleine douleur, c'est un motif de consultation. Est-ce que c'est un motif d'urgence? Malheureusement, vu la configuration actuelle, ça peut l'être, mais ça ne devrait pas. Ils devraient consulter leur médecin traitant. Ça devient une urgence sur le plan médical quand il y a des complications. Donc, en fait, quand le pus qui est derrière l'oreille commence à partir ailleurs, il va partir dans l'os qui est en dessous, qu'on appelle la mastoïde. Donc, ça fait une mastoïdite. Exceptionnel, j'ai pas vu depuis 20 ans. Ça peut aller sur le nerf facial, donc ça donne une paralysie faciale. Ça peut aller vers le nerf auditif et donc ça donne une surdité. Mmh. Et la quatrième complication assez grave, c'est aller au niveau du centre de l'équilibre. Et donc c'est des gens qui ont une otite et ils ont des troubles d'équilibre. Toutes ces complications.
C'est très rare, c'est ça.
Exceptionnel en Europe. Et l'autre complication qui était fréquente, c'est ça donnait des abcès au cerveau. Donc moi, j'ai travaillé 6 mois à Dakar il y a plus de 15 ans. Et ben, on avait opéré un enfant qui avait un abcès cérébral lié à une infection chronique. Voilà. Mmh. C'est exceptionnel en France. Voilà.
Je sais pas, j'ai l'impression cette année qu'il y avait beaucoup plus d'otites que d'habitude. Est-ce que c'est parce qu'on a eu des années Covid je sais pas, ouais, mais ouais. J'ai eu énormément de gens qui me disaient « Ah non, j'ai une otite ».
Alors moi, j'ai un biais de recrutement, c'est-à-dire je vais vous dire ce que je vois dans ma consultation, patient ce qui n'est pas forcément la vérité. En fait, quand vous dites « otite », pour vous, otite, ça veut dire douleur de l'oreille. Et en fait, nous, on va distinguer ces otites. Et en fait, là, on a parlé d'otite purulente, donc avec du pus, pour lequel il faut des antibiotiques. Mais la majorité des otites qu'il y a eu, il y a une recrudescence, c'est des otites virales. Et donc, c'est des gens qui ont eu mal à l'oreille. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu forcément un relâchement sur le masque. Et donc, du coup, on a chopé plus de virus, notamment de Covid. Et donc, ça a explosé. Et alors, c'est rigolo, parce qu'on pourrait mettre un marqueur, c'est les enfants des crèches. Donc, quand il y a eu le confinement, il n'y a pas de crèche, donc pas de chocolat, donc pas d'otite. Les crèches ont repris, et ben ça a explosé. Et donc là, il y a une recrudescence, non pas des otites purulentes, mais des otites virales, avec des douleurs, et du coup, des oreilles qui restaient bouchées plusieurs semaines, plusieurs mois après, pour lequel, du coup, il faut traiter par un corticoïde nasal pour déboucher cette trompe d'Eustache qui est le canal entre le nez et l'oreille.
Donc on passe par le nez, d'accord,
pour aller déboucher l'oreille.
Et pas plomberie. Pas par l'oreille. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de pathologies ORL que vous voyez suite à ces 2 années ou 3 années Covid?
Alors, moi, je fais partie du groupe des ORL qui avait alerté les pouvoirs publics sur la baisse d'odorat. Donc ça, la baisse d'odorat liée au Covid, ça a explosé. Ça a été moins le cas après avec les différents types de variants.
Ouais.
Voilà, donc ça a été moins le cas. Et là, 3 ans après, on est revenu à une situation, pour moi, en ORL, qui n'a pas vraiment, à part ces infections saisonnières, hivernales. Voilà, cette année, on a eu un peu plus de virus qui avaient un tropisme, c'est-à-dire un site de prédilection pour l'oreille et le nez. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu des otites. Bon. Et je crois l'année dernière, c'était pareil, mais c'était plutôt au niveau respiratoire, donc il y avait plus de gens qui toussaient. Voilà. Mais là, actuellement, non. La réponse est non.
Alors pourquoi, si on peut mettre de l'eau dans ses oreilles, il y a ce qu'on appelle des otites de baignade?
Alors, on peut mettre de l'eau dans les oreilles. Comme je vous l'ai dit, le mot-clé, c'est la loi du tout ou rien. Donc, soit vous faites ça régulièrement, soit vous ne faites pas. Si vous faites de temps en temps, vous mettez de l'eau, il y aura eu constitution de serre humaine, pas forcément de bouchon, et c'est là où l'eau va se retrouver coincée derrière le serre humaine, entre le tympan et serre humaine, et c'est là où vous faites des otites externes dites otites de Benyra. Et donc, du coup, le conseil que je vous donne aussi, c'est simple, c'est après les baignades, piscine ou mer, vous mettez un coup d'eau douce dans vos oreilles. C'est la meilleure prévention. Et après, vous enlevez l'eau avec une serviette, le sèche-cheveux si vous voulez, mais pas de coton-tige.
Bon, est-ce qu'on peut se nettoyer les oreilles avec l'auriculaire ?
Alors non, parce que c'est la source des beaucoup de. Alors
il y a des. Il y a beaucoup de gens qui mettent leurs petits doigts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce tic dans les oreilles et qui se gratte l'oreille un peu.
J'ai vu ça chez certaines populations et d'Afrique et d'Asie, à savoir l'auriculaire, le dernier petit doigt de la main, faire pousser l'ongle plus grand et donc du coup ça va être curé. Donc si cet ongle est propre. Je dirais pourquoi pas, mais moi ce que je vois aussi c'est un biais, c'est des otites, donc c'est des gens qui ont de l'eczéma dans les oreilles, c'est lié au stress chez l'adulte, et donc ils se grattent les oreilles. Et je parle pas de l'eczéma lié un petit peu au suintement, le fait d'avoir un casque par exemple sur l'oreille toute la journée, ça c'est autre chose. Là je parle des gens qui ont rien et qui se grattent les oreilles. Et donc en fait ils ont de l'eczéma, comme on peut en avoir ailleurs.
Donc ça se voit donc
Oui, il y a des peaux mortes, des squames. Les squames c'est des peaux mortes en termes médical, c'est des peaux blanches. Et donc du coup ils vont venir gratter avec le doigt et c'est le doigt qui va ramener des bactéries et c'est ça qui va faire des otites externes. Qui complique le voilà. Donc je dirais que non.
Laissez vos doigts dans vos poches.
Les ongles surtout. Voilà.
Vous aurez que l'un dans les poches.
Évitez de mettre aussi des stylos. Évitez de mettre des morceaux d'ail.
Des
morceaux d'ail. Alors,
expliquez-moi, ça m'intéresse. Parce que vous savez, vous savez, les gens, parfois vous leur dites surtout évitez de faire ça.
Et ils le font,
vous voyez. C'est à cause des vampires, c'est ça?
Alors non, du tout. C'est qu'en fait, ils ont mal à l'oreille. Et donc, du coup, ils vont regarder sur Internet. Parce que maintenant, c'est Internet. On va plus appeler papy, mamie. Non. Et donc, ils vont trouver tout et n'importe quoi. Donc, ça commence par l'huile d'olive. Ça se poursuit par l'ail. Des gousses d'ail. Et donc ils vont mettre ça pour essayer de guérir. Or, au mieux ça va aller, mais ça veut dire que même s'ils avaient rien mis, c'est le temps qui passe qui guérit, et pas vraiment les instruments. Donc ne mettez rien dans vos oreilles. Voilà.
Surtout pas d'ail. Bien, merci docteur Ali Abbas d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve sur Twitter. On réécoute cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.
Beurrefm, la rediff.
10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour à tous, bonjour, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins, puisque bientôt on va se retrouver le soir de 19h à 20h à partir de la semaine prochaine. Alors, on commente, on analyse, on décrypte l'actualité. Vous le savez, l'ADN n'a pas changé. Alors au sommaire de cette émission, nous allons revenir sur plusieurs événements. D'abord, nous aurons direction, vous savez, à Montpellier, où cette mère de famille qui sera peut-être avec nous justement, vous savez, elle est encore traumatisée. La mère de la collégienne qui a été agressée à Montpellier, passée à tabac, nous en parlerons justement ici même dans les informés sur Beurre FM. On reviendra aussi sur le lycée Averroès, justement, avec monsieur Éric Dufour, qui sera avec nous dans une poignée de minutes pour nous donner les dernières nouvelles, évidemment, après ce qui s'est déroulé, vous savez, la longue polémique et le feuilleton, hein, presque, le lycée Averroès. Nous reviendrons aussi sur les sujets d'actualité qui nous animent, avec, alors, plusieurs sujets, d'abord, qui ont retenu notre attention. Alors, nous irons avec les trois débatteurs, non pas les quatre ce matin, puisqu'il y en a un qui se retrouve malade, on lui souhaite un bon rétablissement. À la fois d'abord avec, vous savez, l'émotion de censure. Ça mérite quand même une clochette parce que vous savez quoi, il ne faut pas s'interdire de l'utiliser. Ça y est, ça revient à la mode. Et au niveau de l'Assemblée, au sein de l'hémicycle, nous en parlerons. Anne Hidalgo qui appelle à la démission. Vous savez, cette série d'ailleurs d'entretiens avec les différentes chaînes, notamment News, qui ont été convoquées par cette fameuse commission chargée de la TNT. Figurez-vous que le président, le député, monsieur le président de la commission, était Cyril Hanouna. Alors ça a provoqué un véritable tollé. Beaucoup ne sont pas contents et du coup, la maire de Paris, madame Anne Hidalgo, appelle à la démission du président de la commission d'enquête sur les fréquences TNT, mais pas que. Toute la gauche, évidemment, s'est soulevée en disant « Allez, ils se retrouvent dans la tourmente » et réclame, évidemment, et critique très sévèrement le fait d'avoir été chez l'émission TPMJ chez Hanouna. Nous reviendrons donc avec tout cela. Bompard, vous savez, c'est le député LFI, Manuel Bompard, qui estime que la laïcité est menacée par toutes les religions. Qu'est-ce qu'il n'entend pas là ? Oh, et évidemment, on l'aura compris, il y a quelque chose de sous-jacent dans ce qu'il dit. Évidemment, il fait allusion à l'islamisme et l'islam. Nous parlerons aussi de Mélenchon qui sort de nouveau, vous savez quoi ? Une punchline, puisqu'il a décidé de soutenir ses équipes, ses troupes, puisque ça sent pas bon pour lui. Et pour LFI, bien sûr, durant les élections européennes. Nous en parlerons. Et puis, Pascal Boniface sera avec nous tout à l'heure pour nous livrer son billet d'humeur. Il nous parlera des humanitaires. Et ensuite, vous-même, au 0153 48 3000, plus que jamais, en toute liberté d'expression, vous le savez, partout en France, vous nous appelez. Et puis, vous réagissez à cette actualité. Je voudrais que vous réagissiez notamment sur cette pauvre mère qui reste encore traumatisée. Nous tenterons de la joindre. Normalement, elle sera avec nous durant l'émission. Vous savez, sa fille qui a été passée, agressée, mais surtout, c'est terrible, il faut voir les images, passée à tabac, mais gratuitement. C'est devenu terrible, terrible. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview,
on va démarrer cette émission avant de retrouver la mère de famille qui est donc du côté de Montpellier, on va aller direction Lille. Lille avec Éric Dufour. Bonjour Éric Dufour. Vous êtes avec nous ?
Allô. Bonjour Monsieur Varcan.
Oui. Bonjour Éric Dufour, vous êtes le chef d'établissement du groupe scolaire, donc Averroès de Lille, un collège et un lycée de 825 élèves, et une centaine de personnels enseignants administratifs. Dites-moi, merci d'être avec nous, Monsieur Éric Dufour. Justement, j'aimerais revenir sur la situation, vous savez, parce que beaucoup en parlent, et notamment les auditeurs se sont beaucoup posé la question. À Lille, ce lycée Averroès de l'excellence à la chute, certains commentateurs parlent de ça. Aujourd'hui, où en êtes-vous précisément? Précisément, puisque justement la préfecture du Nord a décidé un certain nombre de choses vous concernant.
Oui, bonjour Monsieur Varcan, je salue vos éditeurs et je vous remercie de votre invitation. Alors pour faire un point rapide, donc comme vous le savez, suite à un certain nombre d'éléments que nous jugeons non fondés et injustes, notre contrat a été résilié donc le 7 décembre dernier par le préfet de région. Nous avons lancé un certain nombre avec nos avocats de procédures judiciaires, notamment une première au tribunal administratif qui n'a pas jugé de l'urgence, et nos avocats se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État a accepté de juger cette affaire dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire la possibilité d'annuler l'ordonnance du juge des référés, et nous l'espérons de suspendre la décision du préfet.
Alors la décision du préfet, le lycée, vous avez déposé un recours, on l'aura compris, mais aujourd'hui, rappelons quand même à nos auditeurs, qu'est-ce qui a posé justement ce sujet sur la table concernant le lycée et le groupe scolaire Averroès aujourd'hui. Pourquoi on en a tant parlé ?
Comme vous le savez, comme nos auditeurs le savent, ce qu'on nous reproche, c'est de contrevenir aux valeurs de la République. Et je m'inscris évidemment totalement en faux. Je suis le garant des valeurs républicaines dans cet établissement.
Vous en êtes le chef d'établissement, oui, absolument.
Bien sûr, absolument. Et je mets toujours les valeurs de la République en avant dès que j'inscris un élève et sa famille dans l'établissement, bien évidemment. Tous nos enseignants au lycée sont des enseignants de la République avec des concours de l'éducation nationale. Donc, dans leurs enseignements, naturellement, ils enseignent les valeurs de la République. Ça n'est pas discutable. Pour faire très rapidement, nous avons l'année dernière fourni notre programme d'éthique, le caractère propre musulman. Nous proposons à nos élèves de manière facultative donc une connaissance de la religion musulmane. Et nous avons fourni donc à la Chambre régionale des comptes l'année dernière le programme d'éthique, ils nous l'ont demandé, nous leur avons donné sur une plateforme, et ils ont relevé dans une notice bibliographique des commentaires, si vous voulez, rapidement, donc en seconde, les élèves voient les dires du prophète, ce qu'on appelle les hadiths dans l'islam, qui ne posent aucun problème, bien évidemment, mais dans l'édition qui avait été choisie en notice bibliographique, je le répète, ça n'est pas un livre ni pour les intervenants, ni pour les élèves, mais il y avait des commentaires qui effectivement ne sont pas acceptables, mais surtout qui ne sont jamais enseignés. Et sur cette base, sur cette suspicion notamment, que le contrat a été résilié. Alors bien évidemment, encore une fois, tout ce qui nous a été reproché n'est pas enseigné, je le garantis, dans le groupe scolaire Averroès. Nous sommes un groupe mixte, hein, bien évidemment, mixité sociale, mixité religieuse, mixité d'opinion, parfaitement mixte, et évidemment homme-femme, fille-garçon. Donc nous sommes vraiment dans la concordance avec les valeurs de la République.
Justement, Éric Dufour, vous, le chef d'établissement, aujourd'hui, vous savez, les familles, elles sont très, très inquiètes aujourd'hui. Quels sont les échanges que vous avez avec elles et qu'est-ce que vous leur dites concernant l'avenir du lycée Averroès?
Bien sûr, donc les enseignants d'abord, hein, je mets les enseignants d'abord parce que les enseignants ont perdu de fait pour la rentrée le 1er septembre leur contrat avec l'État, mais au lycée Averroès, mais ils n'ont même pas de garantie d'emploi, ce qui est très difficile, bien évidemment, insupportable pour eux. Et puis on a nos familles actuelles et nos élèves, plus les familles qui souhaitent rejoindre le groupe scolaire qui sont évidemment inquiètes. Donc nous, ce que nous avons dit, c'est que nous allions garantir, quoi qu'il arrive, et dans l'attente des procédures judiciaires qui peuvent être longues, nous allons garantir l'année scolaire prochaine, la rentrée du lycée. Pour cela, il faut que nous ayons le budget que nous avons perdu du fait de la résiliation du contrat, c'est-à-dire la masse salariale des enseignants titulaires et le forfait d'externat, ce qui représente un peu moins de 2 millions d'euros. Et donc nous avons lancé un vaste appel aux dons, une collecte sur Cotisup, Averroès et l'OASO, pour obtenir déjà dans un premier temps le million d'euros qui serait nécessaire pour assurer la rentrée. Donc il y a la poursuite des actions en justice, et nous avons confiance en la justice, et évidemment le budget qui nous est nécessaire pour fonctionner à la rentrée prochaine.
Aujourd'hui, si j'ai bien compris, monsieur le chef d'établissement, c'est coûte que coûte sauver le lycée Averroès, donc vous avez lancé une cagnotte.
Bien évidemment, le mot d'ordre, hein, la cagnotte, c'est Averroès Cotisup. Nous appelons toute la communauté musulmane et au-delà, ceux qui considèrent que notre situation est une injustice, hein, une entrave à la liberté d'enseignement, bien évidemment, et plus généralement une injustice, comme ça a été dit souvent, y compris sur votre antenne. Nous avons vu des établissements qui, eux, ont un grand nombre de recommandations. Ils doivent simplement se conformer à ces recommandations. Nous avons eu un rapport avec aucune recommandation de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, et on nous a pourtant résilié le contrat. Donc nous, notre mot d'ordre, c'est non à la fermeture. Nous maintiendrons le lycée et le lycée d'excellence. Pour cela, il faut garder notre équipe éducative, d'où cet appel à don. Nous avons besoin de ce budget pour garantir à nos élèves, à nos familles et à nos enseignants, bien évidemment, la rentrée prochaine.
Merci Éric Dufour, vous êtes le chef d'établissement, qu'on vous retrouvera bientôt, très prochainement, sur l'antenne des Informés. Merci et bon courage à vous, monsieur Éric Dufour, chef d'établissement au lycée Averroès. Merci, à très bientôt, c'est parti pour le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face
avec le retour, vous savez quoi? Tout simplement de Jonas Hadda. Tiens, comment ça va? Pourquoi ce... Vous étiez en retraite spirituelle ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vanne bien sûr, et c'est une boutade. Attendez, le micro, il n'est pas ouvert, le micro.
Ah, ouais. C'est bon, il est ouvert.
Ouais, il est ouvert, ça y est.
Voyez, il faut qu'il se réhabitue
à ma voix. En retraite politique alors?
Non, okay, non, vraiment.
Voilà, même le micro, il s'est réhabitué.
Voilà, un plaisir de vous retrouver et d'être avec vous et avec vos auditeurs aujourd'hui, vraiment.
Je le rappelle, vous êtes conseiller régional du côté évidemment de la Normandie. Vous êtes vous représentez les Républicains.
Tout à fait.
Plaisir de vous retrouver.
Plaisir partagé vraiment avec tous les chroniqueurs.
Absolument. Réti Thibault. Alors, le jeune révolutionnaire, vous connaissez Réti Thibault ou pas?
Il a fait
beaucoup parler de lui. Hein,
ah, bon?
Réti Thibault. Ah bah oui.
Mais
notamment,
oui,
notamment auprès d'Edouard Philippe. Hein.
Je pensais qu'on allait en parler puisqu'il est visé par le parquet national financier.
On attend un peu avant d'en parler, effectivement. Réti Thibault qui est le...
Parce que éborgneur, ça rime bien avec voleur.
Le jeune révolutionnaire, c'est quoi? Il est le co-porte-parole de la PEP.
C'est
un mouvement écologique.
Pour une écologie populaire et sociale.
Absolument. À vos côtés, c'est le porte-parole du mouvement NDC. Bonjour, Gamal Abina.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
Bon, tout va bien. Messieurs, vous savez quoi? Nous allons parler tout de suite. Ça pleut ce matin, aujourd'hui, sur Paris.
Un
Écoutez, on va parler, vous savez quoi, de cette agression d'une adolescente de 13 ans devant son collège. Trois mineurs ont été donc placés en garde à vue ce matin. Gravement blessée, très gravement blessée, la jeune fille est sortie du coma. Elle sera entendue jeudi par les enquêteurs. Il semblerait qu'une photo ait été diffusée sur les réseaux sociaux après ce déchaînement de violence. Franchement, Richie Thibault, je vous pose la question. C'est énième passage à tabac, énième, là c'est quand même la plongée dans le coma. Ça aurait pu être encore plus grave. La mère de famille, qui j'espère on l'aura dans une poignée de minutes, Sera avec nous en direct dans les informés. Est complètement traumatisée. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'éducation nationale est complètement dépourvue de moyens.
Mais ce qui est sûr, c'est que nos pensées, bon, elles vont vers cette jeune fille et vers sa famille qui est face à quelque chose d'extrêmement difficile de par la violence de cette agression. Et effectivement, moi, je pense qu'il y a une problématique réelle, notamment autour de la question du harcèlement dans l'éducation nationale, notamment dans les collèges et au lycée. Et c'est une problématique qui doit traiter. La question maintenant, c'est quel mécanisme, quel levier on actionne pour résorber la problématique, parce que c'est bien de s'indigner, c'est bien de mettre en lumière des faits à droite, à gauche, etc., de les monter en épingle, de les traiter médiatiquement, mais quelles sont les propositions qui doivent être mises sur la table? D'un côté, on a la majorité avec le gouvernement actuel et notamment Mme Belloubet, la ministre de l'Éducation,
a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux.
Tout à fait, tout à fait.
Là où le bas blesse, c'est les réseaux sociaux, Richie Thibault. Je veux bien qu'on.
Non, mais évidemment, mais j'allais y venir, mais parce qu'on a d'un côté Mme Belloubet,
un certain nombre de choses.
On a d'un côté Mme Belloubet qui nous parle d'un baromètre pour mesurer le degré de harcèlement. Enfin, c'est totalement ridicule parce que les données, on les a déjà. Et de l'autre, on a la droite et l'extrême droite qui nous dit que c'est dû à un ensauvagement de la société, etc. Moi, je pense qu'il y a des problématiques réelles qui ne sont pas évoquées. Mm-hmm. Et tu viens de le souligner, notamment la question des réseaux sociaux qui engendrent un véritable degré de violence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a notamment la commission Thierry Breton au niveau européen qui propose de contrôler les réseaux sociaux, d'interdire l'accès à TikTok, etc. Est-ce vraiment par la prohibition que cela se passe, ou bien par la régulation de certains contenus? Maintenant, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive liberticide dans la matière. Et comment on encadre les contenus et comment on encadre effectivement l'effet de harcèlement sur les réseaux sociaux pour les jeunes?
Gamal Abina.
Moi, je découvre ça ce matin, j'ai regardé rapidement. Elle a été plongée dans un coma artificiel, elle en est sortie, du merci pour elle. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que bon, les réseaux sociaux ou la violence des jeunes, je ne comprends même pas qu'on continue à monter en épingle des faits divers. C'est un fait divers. Ça arrive tout le temps, c'est toujours arrivé. Ça fait depuis que l'école existe qu'il y a des violences. La seule chose qui amplifie le phénomène, c'est qu'on peut le voir sur Internet, c'est vrai. Donc je pense qu'on doit couper effectivement cette alimentation de ces images de violence qui sont propagées de façon très fière de la part des agresseurs. Mais il faut arrêter de délirer, on ne découvre pas l'eau chaude. Ça fait, les violences des enfants ont toujours existé. Il y a un problème d'éducation de masse qui n'a rien à voir avec l'origine ou la question géographique, mais surtout une question d'éducation qui se perd et des valeurs qui ont été perdues, parce qu'à l'époque, l'école était quand même encadrée par des valeurs avant que le religieux soit mis de côté. Je ne dis pas qu'il faille faire du religieux, mais je dis qu'on doit remplacer des valeurs qui ont sans doute des sens divines par des valeurs qui peuvent être simplement morales.
Qu'est-ce que vous entendez par ces valeurs-là? C'est quoi ces valeurs? C'est quoi les valeurs à l'éducation nationale?
La question des valeurs morales, c'est qu'on transmet de la connaissance à l'école, mais on oublie, on nous parle de civisme par exemple, mais on oublie quand même qu'il y a la relation d'être humain à être humain doit être effectivement protégée, doit être améliorée, et ça, c'est des valeurs morales qui sont pareilles, qui
sont
communes
à tous. Mais Gamal Abina, sur les réseaux sociaux, on est en train d'assister qu'à de la violence. Comment voulez-vous que les gamins se retrouvent dans ces valeurs-là?
Les réseaux sociaux, c'est juste une loupe.
Il n'y a que de la violence.
Mais les réseaux sociaux ne font que montrer des réalités. Les réalités ont existé avant. Je veux dire, moi, je vous raconte, il y a 40 ans, les agressions dans les caves, on connaissait les agressions à la sortie des établissements, c'est pas une nouveauté.
Ouais, mais là, ça se passe à l'école.
On parle de l'école.
Sa tête sur le trottoir.
À l'école,
ensuite,
c'est arrivé à l'école, il y a des morts, il y a des enfants qui se prennent des coups de stylo dans les yeux. Enfin, c'est très très courant. On découvre rien aujourd'hui, c'est quand même incroyable.
Oui. Jonas Haddad.
Bon, la première chose, c'est comme dans un diagnostic médical, il faut qu'on partage tous le diagnostic. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des chiffres qui sont extrêmement clairs. L'INSEE, le ministère de l'Intérieur, plus 30% d'augmentation sur les violences.
Oui, par rapport à quelle année? Plus 30%.
Pardon?
Plus 30% par rapport à quelle année?
Par rapport à avant le Covid. Voilà.
C'est une période assez courte. Hein.
Avant le Covid.
Oui, c'est intéressant parce que
vous voulez combien de temps? 10 ans, 20 ans, 30 ans? Et dans ce cas-là, si on fait 10, 20, 30 ans, on va retrouver les mêmes chiffres.
Ça vérifie.
Donc, premièrement, c'est pas à vérifier, c'est public.
Non, c'est premièrement. C'est vérifié, ça. C'est le contraire.
Deuxièmement, une fois qu'on a partagé ce diagnostic, l'idée n'est pas de dire, finalement, il y a la droite, l'extrême droite, il y a les macronistes et on peut rien faire. C'est de proposer des solutions très concrètes. Typiquement, vous avez une ministre de l'Éducation qui a été ministre de la Justice avant en plus, donc elle sait absolument ce qu'il faut faire. Les choses qu'il faut faire, elles sont extrêmement bien connues. D'abord, c'est qu'il faut réformer encore une fois, malheureusement, ce qui existe, à savoir l'excuse pénale des mineurs. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui ont 14 ans, qui se comportent, et moi j'ose le terme, si vous n'osez pas le terme, mais quand on voit les images d'une jeune fille qui se fait massacré sur un trottoir, qui se comportent, oui, comme des sauvages. Non, et moi, j'ose le terme. Et donc ça, et moi, excusez-moi, si vous appelez ça, je sais pas, vous appelez ça comment, des petits anges? Moi, quelqu'un qui met la tête sur un trottoir, et je pense à la mère qu'on va avoir au téléphone tout à l'heure, si ces gens-là avaient été sanctionnés plus durement, bah oui. Parce que vous allez voir, comme c'est le cas aussi statistique officielle, 80% en général sont dans des états de récidive. Donc c'est en général, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit toujours, on dit, oh vous savez, dans un quartier, il y a toujours une petite minorité qui fout la merde. Mais c'est vrai, il y a toujours une petite minorité. Dans un pays, ce que vous voulez. Donc ça c'est un premier point. Donc il faut réformer cette ordonnance pénale des mineurs. Deuxièmement, je dis à Madame Belloubet, qui a été ministre de l'Éducation, qui a été ministre de la Justice, Madame Belloubet, vous n'avez pas changé ce qu'avait mis en place Madame Taubira, à savoir l'interdiction des peines planchers. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez quelqu'un qui est en récidive, on sait que c'est 10% des gens qui commettent 90% des actes de délinquance. Madame Taubira, elle arrive, elle dit bon, allez, c'est pas grave, lorsque vous êtes en récidive, vous revenez comme si c'était la première agression. Non, ce n'est pas possible. On sait qu'il y a des gens, ils sont structurellement, ils ont besoin d'avoir un cadre pour leur dire
vous avez dit,
ce que vous
il y a cette minorité de sauvageons. Clairement, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour justement qu'est-ce qu'on fait
Je fais deux propositions.
D'autant plus que vous êtes avocat en plus.
À votre micro. La première chose, c'est on enlève l'excuse pénale de minorité pour des gens qui sont aujourd'hui jusqu'à 16 ans, à 14 ans. Si monsieur veut considérer que ce sont des gens très bien lorsqu'ils mettent la tête sur le trottoir, libre à lui, il est du côté des agresseurs. C'est pas mon cas, moi je suis du côté des victimes. Deuxièmement. J'enlève l'excuse pénale de minorité. Et deuxièmement, pas intégralement, mais pour ceux qui font ça. Et deuxièmement, je rétablis les peines planchers, car ça permet de taper plus fort sur ceux qui tapent plus fort sur les...
Tiens, j'aimerais entendre nos auditeurs. Je vais marquer la pause, je vous donnerai la parole. Il y a Gamal Avina qui m'a demandé la parole, ensuite c'est Richie Thibault. 01-53-48-3000. 01-53-48-3000. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Voilà, est-ce que vous considérez que ces jeunes, c'est des sauvages? Ou comme Richie Thibault, peut-être qu'il y a une... Voilà,
des petits anges.
Petits anges, je sais pas, il n'a pas dit il ça, pas mais dit, en tout cas. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Cette affaire est très grave. Moi, me concernant, elle est très grave quand même. On peut pas laisser passer, évidemment, ce type d'événement. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la redille. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Jonas Haddad, les informés avec Richie Thibault et enfin avec Gamal Abina. Dans l'ordre, il y avait Gamal Abina qui avait réclamé la parole et ensuite après Richie Thibault. Je voulais absolument qu'on avance parce qu'on a plusieurs sujets qu'on doit absolument traiter. Gamal Abina.
Alors deux choses. La première, quand il y a un acte de sauvagerie, on peut pas, sans parler de sauvageons, parce que ça c'est caractérisé des gens, mais de sauvagerie de la part de personnes, il faut les nommer. La seconde, moi je suis contre le principe de la prison. Les peines planchers, tout ça, c'est pas ce qui fait la différence. J'ai fait une étude assez longue là-dessus. Les peines planchers ont été retirées, donc les juges jugent plus durement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 123 détenus en prison pour 100 places. L'Allemagne, c'est 87 pour 100 places, ça vous donne une idée. Donc, plus il y a une ancienne ministre qui a dit, de la justice, qui a dit, la problématique, c'est que plus on construira de prison, plus on va les remplir. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si on va finir avec ce genre de phénomène, c'est pas le fait de taper. Aux États-Unis, il y a la peine de mort pour les criminels. Ça n'a jamais fait baisser la criminalité. Il faut 30 000 balles par an.
Il faut
donc, la dissuasion, elle se fait en amont, d'abord, faire en sorte d'éduquer, d'isoler les individus qui foutent à pagaille ou qui posent problème, et de les obliger, quand il y a des fautes qu'ils ont commises, non pas aller en prison, parce que moi, je suis contre la prison par principe. Ça sert à rien. C'est une fabrique de délinquants, de criminels. Les obliger à travailler. Moi, je suis pour le retour de l'obligation de travaux. Pas les tubes, pas les trucs gentils, pas les petits travaux d'intérêt généraux, mais de vrais travaux qui sont difficiles, on parle de pénibilité, et qui vont les humilier pour les obliger à ne plus recommencer.
Parce que quelqu'un qui a violé, qui a tué,
je vais voir un avocat.
Attendez,
il veut pas.
Mais Judith, vous êtes contre le principe de la prison.
Non.
Donc quelqu'un a violé, okay, ou quelqu'un a tué.
Je parle à un avocat intelligent. J'attends de l'avocat intelligent qui ne fasse pas le coup du mélange des genres. On n'est pas assez news, tout simplement pour dire que.
Trop fréquemment pour le savoir.
Non, c'est pour ça que je dis on n'est pas assez news. Je sais comment il parle.
Il y a d'un côté. Ce matin.
Mais c'est important. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les délits, qui sont jugés par une institution qu'on connaît très bien, d'accord, un tribunal judiciaire. Ouais. Et de l'autre côté, les crimes qui sont jugés aux assises. Donc
vous savez très bien qu'aujourd'hui, les délits ne sont pas emprisonnés.
Non, mais ça, non, ils sont emprisonnés. Mais ça dépend quel type de délit. Ça dépend quel type.
Ben non, depuis Taubira, ils sont plus emprisonnés.
Non, ça dépend quel type. Il faut aller au tribunal pour ça.
Si, vous y allez. Ah ben, je sais, j'y vais un peu plus que vous-même.
Oui, ça dépend de la période. Moi, j'y allais beaucoup à l'époque pour les études, mais ça vient simplement.
Pour vous.
Non, ce que je veux dire simplement, c'est que ne confondez pas crime et délit, parce que là, c'est trop facile. Il ne faut pas faire un package. Ensuite, évidemment.
Donc vous n'êtes pas contre le principe de la prison.
Pour un criminal, non, puisqu'il est dangereux.
Et donc vous considérez que celui qui met la tête sur le trottoir,
c'est pas un criminel.
Non, c'est pas un criminel.
C'est pas un criminel. Un crime, c'est quoi? C'est tuer, c'est violer.
Ah oui,
il n'a pas tué. Il n'a pas tué.
Mais elle a failli mourir.
Donc, vous allez dire. Est-ce qu'on va voir la mère au téléphone tout à l'heure?
Normalement, oui.
Vous allez lui dire.
Non, mais je
lui dirai. Vous allez lui dire que vous voulez pas que ces gens-là aillent en prison.
C'est pas ce que j'ai dit.
Bah si, vous allez lui dire.
À mon avis, il aura mis une mère de famille à remonter.
Il faut caractériser les faits. Ça n'est pas un criminel. Il ne faut pas tout mélanger.
En plus, vous êtes magistrat.
Mais par magistrat, c'est la loi. Je parle des choses évidentes. C'est pas un criminel.
Bon, alors.
Faut une attention pour ça.
Pour répondre à l'avocat en face qui bave des allégations accusatoires à mon encontre, j'aimerais lui poser une question. Est-ce que dans son parti, enfin vous savez que dans votre parti politique, les Républicains, il y a Madame Nadine Morano qui a un enfant qui commet régulièrement et dernièrement qui a commis il y a quelques mois un refus d'obtempérer sous cocaïne. Est-ce que vous allez le qualifier de sauvage? Voilà ma première question. Ensuite, sur la question du biais pénal. Moi, je suis convaincu effectivement que la solution pour des adolescents qui ont entre 12 et 14 ans, elle ne se situe pas du côté pénal. Parce que si vous les envoyez en prison, effectivement, eh bien, ça va les endurcir. Ils vont en ressortir encore plus sauvages, pour reprendre vos termes, bien que vous ne maîtrisez pas ce terme, car en réalité, sur le plan sémantique, il ne signifie pas cela. Mais bon, ce serait prêter trop d'intérêt à votre méconnaissance sémantique des choses. Mais sur la question, pour moi, la solution, elle se trouve du côté de l'activité. Si on ne propose pas d'activité à ces jeunes, sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan du travail, eh bien, effectivement, le manque de perspective conduit à la violence. Et c'est l'abbé Pierre qui le disait, voyez, un homme d'église. Il disait que face à la misère sociale, face à la détresse psychologique, quand on n'est pas en activité, eh bien effectivement on devient violent et c'est inéluctable. Et il faut effectivement des repères sur le plan moral, sur le plan religieux aussi.
Et vous répond. Jonas Haddad.
Cette rhétorique vieille, mais c'est bizarre parce que vous êtes un jeune, vous avez un esprit de vieux dans un corps de jeune. C'est incroyable. Vous avez une rhétorique. Vous avez une rhétorique digne des années, vraiment même 70 intermondialistes.
Vous parlez dans la dominante.
Vous me parlez de mon parti.
Lui, il est vieux. Regardez la moyenne d'âge des députés de votre groupe, les Républicains à l'Assemblée nationale.
Vous voulez que je réponde ou pas?
Allez-y.
Voilà, souffrez donc ça. Vous parlez de mon parti. Bon, d'abord, vous dites que vous êtes d'un parti politique. Je ne sais pas ce que c'est que votre parti politique. Je crois qu'il y a
un collectif politique.
D'accord, je crois qu'il n'y a pas de député.
Moi, je suis
d'un parti politique hérité des valeurs gaullistes.
Vous faites des accusations pour
vous. Et quand vous parlez, vous voulez que je vous réponde ou pas? Quand vous parlez de Nadine Morano par rapport au fait qu'elle a eu son fils, je ne le savais pas, j'ignorais, vous voyez, vous me l'apprenez. Et je ne vois pas le rapport avec la sauvagerie, puisque la sauvagerie, je la caractérise à partir du moment.
Refuser